Chapitre 26. Le revenant.
Hola, nommée Margaret Drake, où se disant-elle ? Dit Grigoriev en abaissant ses yeux, faire les paperasses et part sur son bureau. Ah oui, votre complice. Vous affirmez de votre fille, eh bien, elle est également à Yurchin, dans la prison des femmes. Réserve d'ailleurs, conformément au règlement, à la mariée à un libéré de bonne conduite, et ce, dans son propre intérêt. Grigoriev négligemment releva la tête et regarda Drake pour voir l'effet de ses paroles. Le visage de l'infortuné, pâli et jauni par les souffrances, était devenu livide. Ses dents grincèrent dans l'effort qu'il fit en les serrant pour empêcher ses mâchoires de s'entrechoquer. « Vous ne feriez pas cela !» gronda-t-il enfin. « Vous ? Mais je le ferai certainement. Et ce, conformément au règlement, » fit Grigoriev. « Maîtrisez-vous, l'ami, et rappelez-vous que vous ne devez parler que lorsque je vous interroge. Nous manquons de femmes à Sakhalin. Le pays est pas folâtre, alors le règlement prévoira que les forçats libérés, ceux dont nous avons jugé la conduite bonne, peuvent se choisir une compagne parmi les criminels que l'on nous envoie de Russie. Oh, les femmes sont toujours droit de refuser, les prétendants nous les referont. La prétendue Margaret Drake, moi, s'il lui plaît, vous êtes ce droit, mais... pas plus de trois fois. Aussi, au plus, c'est son propre intérêt. Il vaut mieux pour elle être unie à un ancien forçat que de rester en prison. Le climat est rude ici et le confort inconnu. Les entêtés qui persistent à rester célibataires ne font pas un long séjour. On les enterre vite, mais elles sont rares, celles-là. J'ai du calme, l'ami. Je suis là ici pour vous expliquer et pour appliquer les lois et règlements de l'Empire. Je veux croire que vous comprendrez ma mansuétude. Je suis sans doute le seul à Sakhalin qui prend la peine de connaître les malheureux qui me sont confiés. Je comprends que la prétendue Margaret Drake, qui, comme vous sans doute, a été élevée dans un milieu raffiné, n'éprouva pas un grand enthousiasme à devenir la femme d'un assassin ou empoisonneur, mais que diable ! Pourquoi s'est-elle faite nihiliste ? Si vous êtes son père, comme vous l'affirmez, la faute retombe complètement sur vous. Je vous écoute. Soyez bref, je n'ai que pour vous entendre. Francis Drake, malgré son atroce angoisse, avait réussi à garder une apparence de calme, à se contrôler, comme disent les Anglais. Il croyait à la sincérité de Grigoriev. Il se disait que c'était peut-être une chance qui s'offrait d'intéresser cet officier à son sort et de tenter, par son intermédiaire, d'obtenir la révision de son procès. D'une voix qu'il s'efforça de maintenir égale, il fit le récit de ses démêlés avec Kressler. Il ne se doutait pas que Grigoriev, qui se savait à la merci de Kressler, voulait simplement connaître la vérité et ainsi tenir son complice. Et ce fut ce qui arriva. Bien des points que Kressler avait volontairement laissés dans l'ombre furent éclaircis. Grigoriev n'ignora plus rien des infamies de son associé. Il n'en demandait pas plus. Bon, « Je ne peux pas ce que vous avez dit devant la cour martiale, » murmura-t-il après que Francis Drake eut achevé son récit. « As-tu su la vraisemblance ? Le séjour du bail ne vous a pas encore amendé. Je le regrette pour vous et pour votre prétendue fille. Allez, conduisez-vous bien, c'est un conseil que je vous donne. J'aime pas les meneurs. »« Oh, mais si c'est pour cela que vous... » commença l'Américain. Grigoriev fronça les sourcils. « Des insolences, maintenant ? Tel est le prix de ma mansuétude, mais... « Je sais comment mater les nihilistes, » dit-il. Et cessant d'employer l'anglais, il lança en russe une brève phrase à l'adresse du surveillant qui était resté à 2 mètres en arrière de Francis Drake. L'homme répondit affirmativement et fit comprendre à l'Américain de le suivre. La phrase dite par Grigoriev, qui n'avait pas même daigné la traduire en anglais, était un ordre d'enchaîner le condamné à une brouette et ce pendant la durée de 2 ans. Francis Drake, aux côtés du surveillant, regagna la cour du bagne. Un force à forgeron riva au carcan de ses jambes deux grosses chaînes de fer fixées à une lourde brouette de bois. Désormais, le malheureux serait partout suivi de sa brouette. Il vivrait avec et dormirait sans la quitter. Il fallait donc que Francis Drake s'évadât au plus tôt et qu'il fît évader sa fille. Il n'eut pas le loisir d'y songer tout de suite. Dès qu'il eut été rivé à la brouette, il dut suivre le surveillant et rejoindre les forçats occupés à 2 lieues de là, en pleine taïga, à extraire d'une carrière bourbeuse la terre glaise destinée à faire des briques devant servir à l'érection d'une nouvelle prison. Pendant toute la journée, Drake dut transporter dans sa brouette des mottes de glaise et cela sans arrêt. À 2 reprises, il s'abattit dans la neige, prit une faiblesse. Les surveillants, à coups de talons de bottes, le firent se relever parmi les rires cruels des autres forçats. Jusqu'à la nuit, le supplice dura. La neige, qui était tombée les jours précédents, avait un peu adouci la température, ce qui n'empêchait pas les forçats de grelotter sous le rayon. À 5 heures du soir, les misérables furent reconduits à leur sinistre demeure. Drake, après avoir avalé sa portion de balanda, s'étendit sur la soupente et, s'étant enroulé dans sa couverture, essaya de dormir. Impossible, malgré la fatigue. Bien qu'il eût appuyé sa brouette contre le rebord de la soupente, le poids des chaînes tirait sur ses chevilles et le contact du métal lui causait une sensation de froid très douloureuse à la longue. Alors, puisqu'il ne pouvait pas dormir, il passa la nuit à réfléchir. Il raisonna son cas et il comprit que tout était perdu, aussi bien pour lui que pour Margaret. Mais Francis Drake, s'il ne possédait plus aucune vigueur physique, avait conservé toute son énergie. Il envisagea son sort avec un calme effrayant. Malgré son âge, il était solide. Bon, il s'habituerait au terrible régime du bagne. Il reprendrait des forces. Il se nierait avec les forçats. Il apprendrait la langue russe et un jour viendrait où, grâce à une occasion propice, il s'évaderait. Il regagnerait les États-Unis et alors tout se paierait. À son grand étonnement, sa condamnation à la brouette, une des plus terribles qui soit, lui avait valu une sorte de considération. Ces bandits pensaient que pour mériter une pareille peine, l'Anglais devait avoir commis d'effroyables forfaits. Francis Drake jouit donc de l'estime de ses compagnons de misère, aussi bien de celle des Ivan, forçats endurcis, que de celle des Gian, les bouffons et les mouchards de la prison. Comme il était obéissant et calme, il évita d'être knouté. Grigoriev, d'ailleurs, ne tenait pas à exaspérer ses victimes. Il jouait son rôle prudemment. Si lorsque Gressler reviendrait, Francis Drake était plus docile et consentait à accéder aux exigences du bandit, lui, Grigoriev, voulait que Drake ne se doutât de rien. Aussi, après avoir aggravé le sort du malheureux d'une manière atroce, affectait-il de ne plus s'occuper de lui, tout en le faisant spécialement surveiller comme un individu dangereux. 15 jours après son arrivée à Newchkin, Drake parvint à avoir des nouvelles de Margaret. Elle était toujours dans la prison des femmes, en compagnie d'une douzaine de voleuses, empoisonneuses et autres aimables représentantes du sexe faible, la plupart de si horribles mégères qu'elle n'avait point encore trouvé d'épouseur. Drake sut aussi où se trouvait la prison des femmes, dans une seconde enceinte située à moins d'une demi-verste de la prison des observés. 6 semaines passèrent ainsi. Le 44e jour qui suivit l'arrivée de Francis Drake à Newchkin, les forçats apprirent que le lendemain serait férié à l'occasion de l'arrivée d'un convoi de condamnés, le dernier de l'année. Les nouveaux venus franchirent la porte du bagne dans l'après-midi. Ils étaient une 30aine en tout, un tout petit arrivage. Drake, qui voulait profiter du pâle soleil qui brillait exceptionnellement ce jour-là dans le ciel jaune, était allé s'asseoir dans la cour du bagne. Il assista à l'arrivée des malheureux, lesquels formaient une troupe semblable à celle dont il avait fait lui-même partie, mais moins nombreuse, de misérables êtres retournés à la barbarie primitive et couverts de haillons sans nom. Drake, ce spectacle écœuré, se disposait à regagner sa soupente lorsqu'une voix, qu'il reconnut instantanément, le fit sursauter comme s'il eût mis le pied dans un fil électrique à haute tension. « Mr. Drake, c'est vous ?» Drake se retourna juste pour voir l'homme qui avait prononcé ces quatre mots recevoir en plein visage les lanières du knout d'une des cosaques de l'escorte. Car il était défendu aux forçats de faire entendre une parole tant qu'ils étaient en rang. L'homme, la face en sang, ne fit pas entendre une plainte. « Pierre Fernaud !» fit Drake. Et c'était bien le lieutenant du Grampus. Comment se trouvait-il au bagne d'Amunchkin, lui que Drake croyait noyé? Par quelle effarante suite de circonstances le Canadien, que Drake avait vu pour la dernière fois nageant parmi les hautes lames du Pacifique, à plusieurs milliers de kilomètres de toute terre, avait-il été envoyé dans l'enfer de Sakhaline? Drake dut maîtriser son impatience. Il assista de loin, comme l'avaient fait tant d'autres misérables avant lui, au rassemblement des nouveaux venus, à leur attente, à la revue passée par Grigoriev. Enfin, à la nuit, les arrivants furent conduits dans le dortoir du bagne où les anciens durent se serrer pour leur faire place. Drake avait couru à la rencontre de Fernaud aussi vite que le lui permettait sa brouette. Il mena le Canadien à sa soupente et, l'ayant fait asseoir, prit place à ses côtés. Les deux hommes ouvrirent ensemble la bouche pour se demander comment ils se retrouvaient là. Fernaud, qui ne paraissait pas avoir beaucoup souffert, avoir sa mine, parla le premier. Son histoire était beaucoup plus simple que ne l'avait supposé Drake. Après avoir laissé s'éloigner l'Adler, Fernaud était resté pendant tout le jour et toute la nuit qui avait suivi, ballotté par les vagues. Énergique comme il l'était, il avait voulu lutter jusqu'au bout, au cas où sa chance viendrait. Et sa chance était venue. Une goélette était apparue le lendemain à l'aube. Fernaud avait été vu et recueilli. Cette goélette, c'était la Mary Irving, un pêcheur de phoques américain. Fernaud, en sa qualité d'officier baleinier, avait été fort bien accueilli à bord. Le capitaine lui avait offert une place d'officier pour remplacer le mât enlevé par une lame au cours du cyclone qui avait permis à l'Adler d'échapper à la Mermaid. Fernaud avait accepté, non sans avoir raconté son histoire au capitaine de la Mary Irving et lui avoir demandé de le débarquer au plus tôt. Mais l'Américain n'avait rien voulu entendre. Il ne voulait pas manquer sa compagne de pêche, bien que Fernaud lui eût promis que Drake le dédommagerait. La Mary Irving avait donc gagné les îles Pribilof comme les autres années. Or, la pêche dans les eaux de l'île Pribilof était réservée aux bâtiments russes, ce qui n'empêchait pas de nombreux navires américains de s'y rendre. Mais la chance devait être contraire à la Mary Irving, qui après seulement une semaine de pêche était sortie d'un banc de brume juste pour trouver, si l'on peut dire, nez à nez avec le garde-côte russe Yaroslav. La mer était calme, le vent nul, impossible de fuir. Les Américains avaient dû laisser fouiller leur navire. Leur culpabilité établie, le Yaroslav avait remorqué la Mary Irving à Nikolaïevsk. Marins et officiers emprisonnés avaient été jugés. Les matelots avaient été condamnés à 3 ans de prison. Les 3 officiers, dont Fernaud, à 5. Fernaud et les 2 autres officiers avaient tenté de s'évader de la prison de Nikolaïevsk. Et au cours de cette évasion, les compagnons du Canadien avaient été tués et lui-même reprit, après une lutte sauvage avec les surveillants cosaques, dont un avait succombé à ses blessures. Ce fait avait valu au pauvre Fernaud d'être condamné aux travaux forcés, sans condition, à vie, heureux encore d'échapper à la potence. Et il avait été envoyé à Sakhaline, à Alexandrov d'abord, à Anyushkin ensuite, sans se douter qu'il allait y retrouver Francis Drake, qu'il pensait toujours au pouvoir de Kressler.